Chapitre 49. Environ de San Juan Capistrano, samedi 25 avril 1981. Richard Haynes arriva à temps pour voir un nuage de fumée monter de la planque israélienne. Il s'engagea dans l'allée et fonça vers la ferme, suivi par deux autres voitures. La lueur des flammes était visible à travers les fenêtres du rez-de-chaussée, lorsque Haynes gara sa Pontiac aux plaques gouvernementales et fonça vers la galerie. Il leva le bras pour se protéger le visage, jeta un coup d'œil dans la salle à manger, essaya d'y poser le pied, mais dut reculer devant la chaleur.
« Merde !»
Il ordonna à trois de ses hommes d'aller derrière le bâtiment et à quatre autres de fouiller la grange et les dépendances. La maison tout entière était la proie des flammes lorsque Haynes descendit du perron et fit les 30 pas qui le séparaient de sa voiture.
« Est-ce que j'appelle les renforts ?»
demanda l'agent chargé des liaisons radio.
« Oui, allez-y. Mais il ne restera plus rien de cette baraque quand ils arriveront. »
Haynes fit le tour de la maison et aperçut des flammes au premier étage. Un agent vêtu d'un léger costume foncé courut dans sa direction, l'arme au poing. Il était haletant.
« Rien dans la grange, dans la pantie ou dans le poulailler, monsieur. Nous n'avons vu qu'un cochon en train de se promener dans la cour. »«
Dans la cour ? Vous voulez dire dans un enclos ? » ?»«
Non, monsieur, on a dû le libérer. La porte de l'enclos est grande ouverte. »
Haynes hocha la tête et regarda les flammes se lancer à l'assaut du toit. On avait éloigné les voitures du bâtiment et les agents attendaient la suite des événements, les poings sur les hanches. Haynes se dirigea vers la Pontiac et s'adressa à l'opérateur radio.
« Peter, comment s'appelle le bouseux de flic qui dirige les recherches pour retrouver le pompiste ?»«
Nesbitt, monsieur. Le shérif Nesbitt, Del Toro.
Ils sont quelque part à l'est d'ici, n'est-ce pas ?»«
Oui, monsieur.
Ils pensent que le pompiste et son ami sont partis en randonnée vers Trabuco Canyon. Les gardes forestiers sont aussi à leur recherche et...
ils ont toujours leur hélicoptère. »
Oui, monsieur.
J'ai intercepté un message radio il y a quelque temps.
Mais l'hélicoptère a peut-être reçu une autre mission. Un incendie s'est déclaré dans le parc national de Cleveland et...
Trouvez-moi la fréquence de Nesbitt et mettez-moi en communication avec lui,
ordonna Haynes.
Ensuite, passez-moi le poste de commande le plus proche de la police de la route.
Les premiers pompiers arrivaient lorsque l'agent tendit le micro à Haynes.
« Shérif Nesbitt ?»«
Affirmatif, qui est à l'appareil ?»«
Ici l'agent spécial Richard Haynes, du Federal Bureau of Investigations. C'est moi qui ai ordonné à vos services de vous mettre à la recherche du dénommé Gomez. Il vient de se produire un événement autrement plus grave, et nous avons besoin de votre aide. Terminé. »«
Allez-y, je vous écoute.
Terminé. »
« Je lance un avis de recherche prioritaire concernant une fourgonnette Ford Econoline de couleur sombre, modèle 1976 ou 78. Le ou les occupants sont recherchés pour incendie volontaire et pour meurtre. Ils viennent tout juste de quitter le lieu où je me trouve actuellement, 19,5 km au nord de San Juan Canyon. Nous ne savons pas s'ils ont pris la direction de l'ouest ou de l'est, mais celle de l'est semble la plus probable. »
Pouvez-vous établir des barrages sur la route 74 à l'est de l'endroit d'où je vous appelle ?
Terminé.
Qui c'est qui va payer la note ?
Terminé.
Haynes serra le micro dans sa main. Derrière lui, une partie du toit s'effondra et les flammes bondirent vers le ciel. Un nouveau camion arriva et les pompiers commencèrent à dérouler leurs lourds tuyaux.
« Ceci est une affaire extrêmement urgente qui relève de la sécurité nationale !» cria-t-il. Le Federal Bureau of Investigations exige l'assistance des autorités locales. Pouvez-vous établir des barrages routiers, oui ou non ? Terminé.
Il y eut une longue pause, entrecoupée de grésillements, puis Nesbitt reprit la communication.
« Agent Haynes, j'ai deux voitures sur la route 74 à l'est de votre position. Mes adjoints étaient allés faire des recherches au camping du Jet Bleu et dans un parc à caravanes. Je vais demander aux deputy buyers d'établir un barrage sur la route principale, au niveau de la limite du comté, à l'ouest du lac Elsinore. Terminé. »
Bien. Y a-t-il des embranchements routiers avant ce point ?
Terminé. Négatif. Rien que des chemins forestiers. Je vais demander à Dusty de prendre sa voiture et d'en bloquer l'accès. Il nous faut un signalement plus précis des occupants de la fourgonnette, sauf si vous voulez qu'on se contente d'arrêter celle-ci.
Terminé.
Haynes se tourna vers la ferme dont la façade s'affaissait,
plissant les yeux pour ne pas être aveuglé par les flammes. Les minces filets d'eau crachés par les tuyaux étaient impuissants à contenir le sinistre. Il actionna le micro.
« Nous n'avons pas de renseignements précis sur le nombre de suspects, ni sur leur signalement. L'un d'eux est peut-être un homme de race blanche, 70 ans, cheveux blancs, parlant avec un léger accent allemand. Il est sans doute accompagné d'un homme de race noire, âgé de 32 ans, mesurant 1m84, pesant 100 kilos, et peut-être également d'un homme de race blanche, âgé de 28 ans, aux cheveux blonds, mesurant 1m79. Ces hommes sont armés et extrêmement dangereux. Mais la fourgonnette est peut-être conduite par une autre personne. Localisez et immobilisez la fourgonnette. Prenez le maximum de précautions avant d'interpeller ses occupants. Terminé.
Tu as entendu, Byers?
Roger.
Dusty?
Affirmatif, Carl.
Entendu, agent spécial Haynes. Vous avez vos barrages.
Vous avez besoin d'autre chose?
Terminé.
Oui, shérif. Votre hélicoptère est-il toujours en vol?
Terminé.
Oui.
Steve vient de finir de fouiller les environs de Santiago Peak.
Steve, tu m'entends?
Terminé.
Oui, Carl, j'ai tout entendu. Terminé.
Vous voulez aussi l'hélico, Haynes?
Pour l'instant, il est détaché auprès de nos services et des eaux et forêts.
Terminé.
Steve, dit Haynes.
Vous êtes désormais au service du gouvernement des États-Unis dans le cadre d'une mission relevant de la sécurité nationale.
Vous m'avez reçu?
Terminé.
Ouais,
lui répondit-on.
Mais je croyais que les eaux et forêts, c'était le gouvernement.
Où voulez-vous que j'aille?
Je viens de faire le plein et j'ai environ 3 heures d'autonomie à cette altitude.
Terminé.
Quelle est votre position?
Terminé.
Je vole vers le sud. Entre Santiago Peak et Trabuco Peak, je me trouve environ à 12 kilomètres de vous.
Voulez-vous mes coordonnées précises?
Terminé.
Négatif, dit Haynes.
Venez me chercher ici. Je me trouve près d'une ferme au nord de San Juan Canyon, à 8 kilomètres de Mission Viejo. Vous arriverez à trouver?
Terminé.
Vous rigolez? Dit le pilote. Je vois la fumée d'ici. Vous faites un barbecue ou quoi?
J'arrive dans 2 minutes.
Ici NL-167B. Terminé.
Haynes ouvrit le coffre de la Pontiac. Un pompier qui passait par là regarda le tas de M16, fusil à pompe, carabine de haute précision, gilet pare-balles et chargeur, et poussa un sifflement.
« Bordel de Dieu !» dit-il pour lui-même.
Haynes s'empara d'un M16, tapota un chargeur contre le rebord du coffre pour entasser le contenu et l'inséra dans son arme. Il ôta son veston, le plia soigneusement, le posa dans le coffre et enfila un gilet pare-balles, emplissant de chargeurs ses immenses poches. Il attrapa une casquette de baseball bleue posée sur la roue de secours et s'en coiffa. L'agent chargé des liaisons radio l'appela.
« J'ai le commandant de la police de la route en ligne. »
Donnez-lui toutes les informations relatives à l'avis de recherche que je viens de lancer. Demandez-lui s'il peut étendre le dispositif au reste du comté d'Orange.
Vous voulez dire d'autres barrages routiers, monsieur?
Haynes fixa le jeune agent.
Sur l'Interstate 5, Tyler? Êtes-vous aussi stupide que le laisse penser cette remarque, ou bien avez-vous des absences?
Dites-lui de lancer l'avis de recherche pour retrouver l'Econoline. Si ces hommes l'aperçoivent, qu'ils relèvent son numéro minéralogique, la prennent en filature et me contactent par l'intermédiaire du centre de communication de L.A.
Barry Metcalfe, un des agents de l'antenne de L.A., réquisitionné par Haynes, se dirigea vers lui.
« Dick, je ne comprends rien à ce qui se passe. Qu'est-ce qu'un groupe de terroristes libyens faisait dans une planque israélienne et pourquoi y ont-ils mis le feu ?»«
Qui a dit qu'il s'agissait de terroristes libyens, Barry ?»
« Eh bien, vous avez dit lors du briefing que c'était des terroristes moyen-orientaux.
Vous n'avez jamais entendu parler des terroristes israéliens ?» Metcalfe scia, mais ne dit rien. Derrière lui, la façade de la ferme acheva de s'effondrer, projetant des bouquets d'étincelles. Les pompiers se contentaient d'arroser les dépendances les plus proches. Un petit hélicoptère Bell, à la cabine en plexiglas, apparut au nord-est. Décrivit un cercle au-dessus de la ferme, puis se posa dans le champ.
« Vous voulez que je vous accompagne ? »
demanda Metcalfe.
Haynes désigna l'hélicoptère.
Apparemment, ce vieux machin ne peut accueillir qu'un seul passager, Barry.
Ouais, on le dirait tout droit sorti de MASH.
Restez ici. Quand l'incendie sera éteint, il faudra passer les décombres au peigne fin. Il est possible qu'on y trouve quelques cadavres.
Génial,
dit Metcalfe sans enthousiasme, et il se dirigea vers ses hommes. Alors que Haynes se dirigeait au petit trot vers l'hélicoptère, un homme répondant au nom de Swanson s'approcha de lui. C'était le plus âgé des 6 plombiers de Kepler que Haynes avait emmené avec lui. Swanson lui jeta un regard intrigué.
« Je me trompe peut-être !»
cria Haynes pour couvrir le bruit des rotors.
« Mais j'ai l'impression que c'est Willy qui a monté cette opération. Sans doute pas le vieux lui-même, mais probablement Luard ou Reynolds. Si j'arrive à les lever, tuez ces types !»« Et la paperasse !»
dit Swanson en indiquant Metcalfe et son groupe.
« Je m'en occuperai. Vous, faites votre boulot !»
Swanson hocha lentement la tête. L'hélicoptère venait à peine de décoller, montant en spirale dans le nuage de fumée émanant de la maison, que Haynes recevait un premier appel radio.
« Ici le shérif adjoint Byers, voiture numéro 3, barrage de la route 74. J'appelle l'agent Haynes, terminé. »«
Je vous reçois, Byers, allez-y. »
Sous l'hélicoptère apparaissait un paysage montagneux parcouru par le ruban gris pâle de la route tortueuse. La circulation était pratiquement inexistante.
Mr. Haynes, ce n'est peut-être rien, mais je pense avoir aperçu il y a quelques minutes une fourgonnette de couleur sombre. C'était peut-être une Ford, en train de faire un demi-tour à 200 mètres de ma position, terminée.
Vers où se dirige-t-elle en ce moment?
Terminée.
Vers vous, monsieur. Elle remonte la 74, sauf si elle a emprunté un des chemins forestiers. Terminé.
Peut-elle contourner votre position en suivant un de ces chemins?
Terminé.
Négatif, Mr. Haynes. Ils se terminent tous sur une impasse ou sur un sentier, sauf le coupe-feu des eaux et forêts où Dusty s'est posté. Terminé.
Haynes se tourna vers le pilote. Un petit homme trapu vêtu d'un anorak aux armes des Dodgers de L.A., et coiffé d'une casquette portant l'emblème des Indians de Cleveland.
Steve, pouvez-vous capter Dusty?
Pas toujours parfaitement, dit le pilote dans l'interphone. Ça dépend de quel côté de la colline il se trouve.
Je veux lui parler.
Haynes regarda le paysage défiler 300 pieds plus bas. Pins et broussailles dessinaient un tapis mouvant d'ombre et de lumière. Les arbres les plus hauts poussaient au bord des ruisseaux asséchés et au creux des dépressions. Haynes estima que la nuit tomberait dans une heure et demie. Ils atteignirent le col, l'hélicoptère prit de l'altitude et décrivit des cercles. Haynes aperçut l'éclat bleu du Pacifique à l'ouest et l'éclat orangé du smog flottant sur Los Angeles au nord-ouest.
« Le barrage est de l'autre côté de cette colline, » dit le pilote. Je n'ai vu aucune fourgonnette de couleur sombre sur la route. Vous voulez qu'on mette le cap au sud pour rejoindre Dusty?
Oui. Vous avez pu le capter?
Il n'a pas répondu au... Oups, le voilà.
Il abaissa un levier sur la console.
Fréquence 25, Mr. Haynes.
Deputy, ici l'agent spécial Haynes. Me recevez-vous? Terminé.
Oui, monsieur. Je vous reçois 5 sur 5. J'ai trouvé quelque chose qui risque de vous intéresser, Mr. Haynes. Terminé.
De quoi s'agit-il?
Une fourgonnette Ford bleu marine, modèle 1978. Je roulais sur le chemin forestier en direction de la route, et je l'ai trouvée abandonnée sur le bas-côté. Terminé.
Haynes tapota son micro et sourit.
Il y a quelqu'un dedans? Terminé.
Négatif? Mais il y a plein de trucs à l'arrière. Terminé.
Bon sang, deputy, soyez plus précis. Quel genre de trucs?
Terminé.
Du matériel électronique, monsieur. Je n'en suis pas sûr. Peut-être devriez-vous venir y jeter un coup d'œil. Je vais aller fouiller un peu la forêt.
Négatif, deputy, ordonna sèchement Haynes. Vérifiez que la fourgonnette ne présente aucun danger et restez où vous êtes. Quelles sont vos coordonnées?
Terminé.
Mes coordonnées,
Dites à Steve que je suis à 800 mètres de l'entrée du coupe-feu du lac Coot. Terminé.
Haynes se tourna vers le pilote qui hocha la tête.
Roger, restez où vous êtes, député. Gardez votre arme à portée de main et soyez aux aguets. Nous avons affaire à des terroristes internationaux.
L'hélicoptère vira sèchement à droite et plongea vers les collines boisées.
Taylor, Metcalfe, vous nous avez reçus ?
Roger, Dick,
dit la voix de Metcalfe.
Nous sommes prêts à vous rejoindre.
Négatif. Restez à la ferme. Je répète, restez à la ferme. Je veux que Swanson et ses hommes me retrouvent près de la fourgonnette, compris ?
Swanson ? Dit Metcalfe, incrédule.
Dick, c'est notre juridiction.
Je veux Swanson, dit sèchement Haynes. Ne m'obligez pas à me répéter, terminé.
Message reçu, Richard. Nous arrivons, dit la voix de Swanson.
Haynes se pencha par la porte ouverte lorsque l'hélicoptère survola le lac Coot à 600 pieds d'altitude et descendit vers une petite vallée. Il serra le M16 contre lui et sourit. Il était ravi de faire le bonheur de Mr. Barrent et attendait avec impatience de passer à l'action. Il savait que ce n'était sûrement pas Willy qui conduisait la fourgonnette. Le vieux aurait utilisé le shérif adjoint pour franchir le barrage, plutôt que d'abandonner son véhicule. Mais sa proie, quelle qu'elle soit, était perdue. La forêt couvrait plusieurs centaines de kilomètres carrés, mais en choisissant de s'y enfoncer à pied, les hommes de Willy avaient scellé leur sort. Haynes avait des ressources presque illimitées à sa disposition, et cette forêt n'était qu'une vaste étendue de broussailles. Mais Haynes ne souhaitait ni utiliser ses ressources illimitées, ni attendre le matin pour lancer des recherches. Il voulait en finir avec cette phase du jeu avant la tombée de la nuit.
« Ce n'est peut-être ni Luard ni Reynolds, » pensa-t-il.
« Probablement pas. » Peut-être était-ce la noire que Willy avait utilisée à Germantown. Elle avait complètement disparu de la circulation. Peut-être même était-ce Tony Harrod. Haynes sourit en se rappelant l'interrogatoire qu'il avait fait subir la veille à Maria Chen. Plus il y réfléchissait, plus il lui paraissait probable que sa proie n'était autre que Harrod. Eh bien, il était grand temps qu'on cesse de ménager ce petit connard hollywoodien. Richard Haynes avait passé plus d'un tiers de son existence à travailler pour Charles Colben et pour C. Arnold Barrent. Étant neutre, il ne pouvait pas être conditionné par Colben. Mais il avait été amplement récompensé de ses peines. Pour Richard Haynes, le travail était encore plus gratifiant que l'argent ou la puissance. Il adorait son boulot. L'hélicoptère survola une clairière à 200 pieds d'altitude, à une vitesse de 110 km/h. La fourgonnette noire était garée en son centre, les portières arrière grandes ouvertes. À côté d'elle, un 4x4 portant l'emblème du comté. Vide.
« Où diable est passé le député ?» dit sèchement Haynes.
Le pilote secoua la tête et essaya de capter Dusty. Aucune réponse. Ils décrivirent une spirale au-dessus de la clairière et de ses environs immédiats. Haynes leva son M16 et guetta un mouvement ou une tache de couleur entre les arbres.
« Rien.
« Faites encore un tour, » ordonna-t-il.
« Écoutez, capitaine, » dit le pilote, « je ne suis ni officier de police, ni agent fédéral, ni héros, et j'ai fait mon temps au Vietnam. Cet engin est mon gagne-pain. Si on se met à nous tirer dessus... il faudra que vous cherchiez un autre coucou et un autre pilote.
Taisez-vous et faites encore un tour. Cette affaire relève de la sécurité nationale.
Ouais, c'était aussi le cas de Watergate. Et ça ne me plaisait pas non plus.
Haynes pivota sur lui-même et braqua le M16 sur le pilote.
Steve, je vous le demande une dernière fois. Faites encore un tour. Si nous ne voyons rien, vous allez atterrir dans cette clairière côté sud.
Comprendo?
« Ouais, yo comprendo. Mais ce n'est pas parce que vous me braquez avec votre M16 que je vous obéis. Même un connard de fédéral n'oserait pas abattre un pilote s'il est incapable de piloter son engin et s'il a peur que le cadavre tombe sur le tableau de bord.
« Atterrissez !» dit Haynes. Ils avaient fait 4 fois le tour de la clairière et ils n'avaient vu personne. Même pas le shérif adjoint. Le pilote perdit rapidement de l'altitude, redressant son appareil pour éviter la cime des arbres, avant de le poser à l'endroit exact que lui avait indiqué Haynes. « Descendez !» ordonna l'agent du FBI en levant son arme.
« Vous déconnez !»
s'exclama Steve. « Si nous devons partir en hâte, je veux être sûr que nous partirons ensemble. Maintenant, descendez avant que je fasse des trous dans votre gagne-pain. »
« Vous êtes cinglé !»
Le pilote releva la visière de sa casquette.
« Je vais faire un tel foin que J. Edgar Hoover sortira de sa tombe pour vous botter le cul. »«
Descendez !» répéta Haynes. Il libéra le cran de sûreté de son arme et la régla en position de tir automatique. Le pilote procéda à quelques réglages sur le tableau de bord, les rotors ralentirent, et après avoir débouclé sa ceinture, il descendit. Haynes attendit qu'il se soit éloigné d'une dizaine de mètres, puis il ôta sa ceinture à son tour et courut vers la bronco du shérif adjoint, avançant le dos courbé, l'arme à moitié levée. Il s'accroupit près de la roue arrière gauche du 4x4, fouilla du regard le flanc de la colline en quête d'un mouvement, d'un éclat de métal ou de verre. Rien. Haynes leva lentement la tête. Il examina la banquette arrière, puis s'avança le long du véhicule et vérifia que les sièges avant étaient également vides. La cloison métallique qui séparait l'avant de l'arrière était pourvue de deux râteliers à fusil. Tous deux étaient vides. Haynes essaya d'ouvrir la portière. Elle était verrouillée. Il mit un genou à terre et inspecta le flanc de la colline qui emplissait son champ de vision. Si ce crétin de shérif adjoint était allé fouiller la forêt, contrairement à ses ordres, il avait sûrement pris son arme et fermé sa portière.
S'il y avait un seul fusil dans la voiture, s'il y avait bien un fusil, si le shérif adjoint était encore vivant.
Haynes regarda en direction de la fourgonnette, garée à 6 mètres de lui, et regretta soudain de ne pas avoir attendu l'arrivée de Swanson et de son équipe pour atterrir. Dans combien de temps arriverait-il? 10 minutes, un quart d'heure? Probablement moins, sauf si le lac était plus éloigné de la route qu'il ne l'avait cru en survolant le coin. Haynes vit soudain en esprit la tête de Tony Harrod sur un plateau. Il sourit et courut jusqu'à la fourgonnette. Les portes arrière étaient grandes ouvertes. Haynes se glissa le long de la carrosserie brûlante pour examiner l'intérieur. Il savait qu'il formait une cible idéale pour un tireur embusqué sur la colline au sud de la clairière, mais il n'y pouvait pas grand-chose. Il avait choisi d'approcher dans cette direction parce que, excepté le bosquet devant lequel se trouvait le pilote, la colline n'offrait en guise de cachette que des petits rochers et des hautes herbes. Haynes avait survolé les arbres à 4 reprises sans rien apercevoir. Il cala le M16 contre sa hanche et acheva de faire le tour de la fourgonnette. Des cartons, un fouillis de câbles et d'appareils électroniques. Haynes reconnut un transmetteur radio et un ordinateur Epson. Un homme n'aurait pas la place de se cacher là-dedans. Haynes entra dans la fourgonnette et fouilla son contenu. Le carton placé au centre du compartiment abritait 30 ou 35 kilos d'une matière argileuse grise, soigneusement rangée dans des petites poches en plastique.
« Oh merde !» murmura Haynes.
Il n'avait plus envie de rester dans la fourgonnette.
« Hé, capitaine, on peut y aller ?»
demanda le pilote.
« Oui, faites chauffer le moteur !»
Haynes attendit que le pilote ait regagné son appareil, puis il se pencha et courut vers la portière qui lui faisait face. Il était arrivé à mi-chemin lorsqu'une voix trop forte pour être humaine hurla sur le flanc nord de la colline.
« Haynes !»
Les premières détonations se firent entendre une seconde plus tard.